dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Je pense qu'on pourrait abolir les frontières et on ne le fait pas parce qu'on n'est pas clair. On continue à vendre des armes, on continue à vendre la guerre, à faire tout un commerce, à rester riche en gardant l'autre pauvre et à refuser et à blâmer tous ces migrants qui échappent à la misère à cause de nous.
À la rencontre de Solène Perron sur Dissonance.
Moi je trouve ça riche en fait d'aller ailleurs, enfin, d'avoir d'autres points de vue, d'expérimenter d'autres points de vue, d'autres manières de faire. Et de brasser ça, quoi. Faut vraiment le brasser. Après, ça, c'est vrai que ça va trop vite. Et je supporte pas non plus être définie. Parce que définir quelqu'un, c'est le mettre dans une case et c'est l'enfermer. Et ça l'empêche d'être et d'explorer. Et on n'a qu'une vie, en fait. On peut pas passer à être dans un truc où on n'est pas sûr. Et faut pas avoir peur. Et en tant que femme, faut pas avoir peur. Enfin, toutes ces méconnaissances et médisances pour nous garder à la maison, c'est fini, en fait. Peur de rien. Non, faut pas. C'est une force. On nous manipule. Enfin, tant qu'on aura peur, on nous manipulera. Pas de soumission.
Ce mois-ci, Dissonance vous invite à partir à la découverte de quelqu'un qui n'aime pas spécialement se donner à entendre, qui préfère agir que pérorer, qui mène sa vie comme elle la rêve, qui refuse de rentrer dans un moule, qui refuse les peurs, qui refuse les soumissions et qui, nous imaginons bien, va se boucher les oreilles quand elle va entendre cette présentation. Aujourd'hui, l'invitée est Solène Perron. Si nous la présentions comme bretonne, elle qui n'aime ni les frontières ni les cases, ce serait limitatif. Et elle refuserait d'être définie ainsi, comme elle refuse d'être définie tout court. Solène est une femme libre, qui vit dans les lisières du monde, faisant écho au poète Jean Boudou qui écrivait « C'est dans les marges qu'est la liberté ».
Dans Dissonance, nous entendrons Solène évoquer sa manière d'être à la vie, forgée au hasard des rencontres, aux quatre coins de la planète.
Dans Dissonance, nous l'entendrons aussi parler de ses amis indiens, de son partage avec le peuple aborigène, de son amour pour les musiques arabo-andalouses et son dégoût de l'injustice, des chaînes et des peurs. Dans Dissonance, au fil de cette heure d'entretien, c'est en tirant des étiquettes où sont inscrits des mots qui lui donnent à s'exprimer que Solène va se livrer petit à petit.
Elle va nous faire partager non pas ses vérités, car le doute est aussi un moteur qui la fait avancer, mais plutôt un bout de sa route qu'elle continue à tracer, seule et en toute indépendance.
Une route non prédéfinie, une route qu'elle ne suit pas, une route qui se dessine sous ses pas au fur et à mesure de ses voyages et du temps. À la rencontre de Solène Perron sur Dissonance.
Voilà, on est avec Solène au petit déjeuner. Solène Perron, ça t'inspire quoi ces petits papiers?
Un jeu.
Alors, c'est des mots qui, pour moi, te définissent.
Australie.
C'est vrai, c'est large.
Oui, tu es partie en Australie, plusieurs années.
7 ans. J'ai passé 7 ans en Australie et ça fait partie de moi, en fait. Je suis australienne.
Ah ouais? Et c'est quoi être australienne, alors?
Alors, je dis ça parce que j'ai pris le passeport sur la fin 2 mois avant de partir. Je me suis dit que je prenais la nationalité. Mais c'est aussi parce que ça m'a formée. Enfin, le fait d'avoir passé 7 ans là-bas, à partir de mes 24-25 ans, bah forcément, on est toujours en construction. Donc forcément, ma construction s'est faite avec mon passage en Australie, mes expériences en Australie et tout ce que j'ai pu y voir.
Et ça t'a apporté quoi, alors?
Alors ça, je sais pas du tout. J'ai plus eu peur. En fait, en France, je me sentais étriquée, conditionnée, mise dans une case. C'était compliqué. Et là-bas, c'est mille et une possibilités. Si tu veux rien faire, tu fais rien. Si tu veux vivre dans ton van, au bord de la mer, à pêcher pendant quelques jours ou mois, enfin, personne te juge. Si tu veux retourner au boulot, bah, tu retournes au boulot. Il y aura toujours quelqu'un pour te filer un bon plan. Et si tu veux évoluer, bah, tu évolueras selon tes rencontres. Les classes sociales ne sont pas figées comme ici, ce qui permet aussi de prendre vachement d'assurance, d'évoluer dans différentes classes. Moi, sur la fin, quand j'étais du côté de Darwin, eh ben, je travaillais dans un petit village mixte, aborigène, non aborigène. Et donc voilà, c'était pieds nus, t-shirt, on se prend pas la tête, on faut surtout pas trop s'habiller, on en parlait hier, mais il faut pas trop s'habiller. Et puis ça m'empêchait pas d'aller à la ville, avoir des amis qui étaient avocats, avoir des amis qui étaient au-dessus dans la police, qui étaient très étranges, mais bon, a priori, la manière de tirer le. Contrôler le pays est différent là-bas. Et du coup, je trouvais que c'était un ascenseur qui me plaisait beaucoup. Et j'étais bien là où j'étais. Je pense que j'étais plutôt au bas de l'échelle parce qu'en travaillant dans une crèche, on n'était pas forcément en haut de l'échelle, même là-bas. Mais je le ressentais pas. Je l'ai appris que sur la fin parce que j'adorais ce que je faisais et que, en fait, on me prenait comme j'étais. Et ça, j'ai trouvé hyper libérateur en me disant, je fais ce que je veux.
Et ton regard sur l'Australie, il a changé entre ce que tu imaginais au départ et la réalité quand tu étais là-bas ?
Mais alors moi, je voulais y rester que 6 mois à la base. Et je me suis égarée, comme d'habitude. Et je suis restée 7 ans. Mais j'avais pas tant d'a priori. Moi, je voulais juste, à la base, je voulais partir pour apprendre l'anglais aussi. Et je m'étais dit que je voulais travailler pour la jeunesse au niveau de l'Europe. Et aller apprendre l'anglais en Angleterre ou en Irlande sous la pluie, étant à Brest, ça me plaisait pas trop cette idée. Donc j'ai décidé de partir en Australie. Et y avait du travail, ça se passait bien. J'ai rencontré quelqu'un là-bas qui était australien. Du coup, je suis restée. On a regardé pour rentrer en France, mais les papiers, c'est un casse-tête en France. Enfin, je comprends aussi tous les arrivants en France qui veulent... Oh, c'est juste horrible. Donc solution de facilité, on est resté en Australie. Et puis, après, au niveau de mon regard, ouais, j'avais pas tant. Je savais pas trop quoi penser. Non, je suis pas partie. J'ai pris un guide parce que, une semaine avant, on m'avait recommandé de prendre un guide. Mais j'avais aucune idée d'où j'allais et ce qui était chouette. Mais par contre, le pays n'est pas du tout le même du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est des modes de vie différents. De la ville à l'outback, c'est différent. On trouve vraiment de tout. On peut pas, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut pas définir l'Australie. Et qu'il y a toujours un endroit pour tout le monde en cherchant bien et selon le mood aussi. Enfin, ouais, je crois que. Moi, comme tous les pays, je trouve ça extrêmement difficile de définir un pays et une population.
Et à ton habitude, donc, Solène, tu as créé là-bas un réseau de relations, d'amis, puisque tu es ouverte sur les autres. Et tu as pas envie de les revoir, de revenir ?
Alors, si. J'ai toujours un carton, j'ai une copine, avec mon vélo.
C'est fait exprès, ça.
Et j'ai une super copine irlandaise là, qui rentre en Irlande aussi. Elle, c'était son but. Donc voilà, elle rapatrie sa petite famille en Irlande en novembre. Donc j'ai trop hâte de la revoir et je pense que les filles, du coup, ont aussi venir. Et il y a aussi une autre, c'était ma famille d'accueil de Woofing. Enfin, pour moi, c'était comme des oncles et des tantes là-bas. Et donc du coup, avant le Covid, on se disait qu'on se rejoindrait bien faire un road trip ensemble en Europe parce qu'elle a des origines en Grèce et tout ça, de la famille. Donc voilà, ça c'est un plan qu'on garde toujours en tête, qu'importe, c'est-à-dire qu'elle est, on fera.
Et c'était ton premier voyage, t'étais toute jeune et hop, t'es partie.
En fait, j'ai un peu bourlingué avant de manière différente. Je fais des petites road trips avec les copines en Espagne, sud de l'Espagne et tout ça. Et après, je suis allée en chantier en Roumanie. Et là, ça a été une découverte complète parce que je connaissais pas la langue, la culture était différente, on mangeait différemment, tout était différent. Et j'ai adoré. Je me suis juste dit, ok, donc je suis balancée chez l'habitant. Je comprends rien concrètement à ce qui se passe, mais c'est super cool. Et j'ai juste envie de voir comment ça se passe un peu partout ailleurs. Des manières de faire du camping différentes. Enfin, non, c'était vraiment une belle. Enfin, ma première expérience, pour moi, c'est celle-là en fait, qui m'a donné l'envie de waouh, ça va chercher au plus profond de nous-mêmes, ça nous dérange. Enfin, il y a plein de choses qui sont chouettes.
Est-ce qu'il t'arrive, Solène, de porter un regard négatif sur les autres ? à t'entendre, tout est riche de rencontres, de découvertes, mais...
Oui, oui, complètement, mais après, je trouve que chacun a sa raison d'être, et on peut pas être toujours d'accord, et s'il y a des gens que j'aime pas, je pense qu'il y a une raison, et du coup, c'est plus un exercice de la vie. Ils sont pas là par hasard, ils rentrent pas dans ma vie par hasard, c'est un exercice, et puis... on peut pas tous s'aimer, hein, ça c'est sûr. Mmh. On peut pas tous être d'accord non plus. Mais
tu tolères qu'on soit différent et qu'il y ait différentes façons de penser, qu'on évolue aussi dans ses pensées.
Oui, et puis je trouve ça riche en fait d'échanger avec l'autre qui est pas du tout d'accord non plus, parce qu'il y a peut-être une raison qui m'échappe. Et faut pas se braquer quoi.
Mmh. Liberté.
Ah, la liberté. Ben ouais, la liberté. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup et je la définis. Ça, c'est une phrase que ma mère m'avait dit, qui m'a marquée toujours. Elle m'avait dit, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et vis ta vie, quoi. Et Du coup, je suis libre et en même temps, faut arrêter. Enfin, c'est pas bon, la liberté, c'est pas non plus. Je fais ce que je veux quand je veux. Faut avoir conscience de l'autre, parce que ça peut être très individuel, la liberté au final. Et c'est, je sais pas comment quoi dire de plus sur la liberté.
Tu es plus pour une liberté collective, c'est-à-dire toi être libre et savoir les autres pas libres, tu serais pas bien quoi.
Alors ça complètement, et du coup j'ai beaucoup de mal avec les mouvements sociaux, j'ai beaucoup de mal avec les syndicats, j'ai beaucoup de mal avec ces groupes qui lissent les pensées. Et je pense qu'on nous a dépossédés de notre pouvoir d'action individuelle et collective. Et par l'action individuelle, si chacun agit selon ses convictions, au fur et à mesure, les choses peuvent changer. Et j'ai l'impression que ça, les gens n'en ont pas conscience. Ils pensent que toute bataille est perdue d'avance face aux grosses machines, alors que pas du tout. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un collectif pour dire je vais plus en supermarché faire mes courses de légumes, ceci, cela. Mais si tout le monde le fait tout seul, et j'ai pas à le dire à qui que ce soit non plus, hein, chacun. Mais si je trouve que c'est pas juste, je le fais pas. C'est mon problème, ça regarde personne. Mais en y réfléchissant, les gens commencent à le faire et on se rejoint. Et je crois que c'est une plus grande force que des mouvements qui, au final, sont empreints d'ego, de personnes qui veulent être au pouvoir et être reconnues, et ça finit souvent en clash et en corruption en plus, il y a toujours des magouilles, enfin voilà. Et ça me permet de garder mon intégrité, ça. Et non, en voyant les autres pas libres, ça me peine vraiment, en fait. Ouais, ça, c'est pas quelque chose qui me plaît, parce que tout le monde a quelque chose à apporter dans ce monde et a sa vie à vivre.
Pour être libre, il faut savoir dire non. Et ça, toi, tu sais bien le faire.
Hey, je sais pas, ça dépend. Faut que ça vienne. Quand est-ce que je dis non, mais je sais pas quand. Mais j'ai des limites en fait où je peux pas. Il y a juste des fois où je peux pas. Et c'est pas faute de pas vouloir, mais je peux pas. Ou alors, quand ça va au travers de mes convictions, je ne peux pas. Et je sais qu'en fait, là, il y avait eu pas loin de chez moi un mouvement qui avait voulu se monter par rapport à des soucis dans le quartier à cause du Covid. C'était un mouvement vraiment respectable, mais ça, je pouvais pas. Je savais que ça allait m'énerver, que j'allais ressortir plus angoissée. Et là, à ce moment-là, je dis non en disant, une fois que l'action sera mise en place, si vous avez besoin d'un coup de main, vous me dites quoi faire et je ferai. Mais je participerai pas à tout ça. Enfin, je peux pas.
Et dire non, c'est aussi dans ton travail, où des fois, tu dis non à des injustices qui permettent aux autres d'être libres et tu es leur garant, de leur garde-fou, quoi.
Ouais, ouais. Je suis alerte, je supporte pas l'injustice. Et il y a un moment donné, on peut pas non plus ne pas supporter l'injustice et le crier partout sans rien faire. Donc faut créer des positions où on a moyen de jouer et d'agir aussi à notre niveau. Et oui, s'il y a injustice, là par contre, j'ai pas trop de limites, je vais au front, j'en ai rien à faire. Et généralement, j'ai des billes en plus, donc ça peut être assez pénible pour les personnes en face et j'en démordrai pas. Donc ça c'est une manière de contester quand le pouvoir devient négligent, trop fort. Enfin, tout comme la nation, à un moment donné, on est lié à un président, c'est un minimum pour avoir un... Enfin, normalement, il devrait un peu nous gérer. Et c'est carrément pas juste, tout l'argent qu'on donne aux impôts et quand on voit comment c'est distribué, qu'ils viennent taxer ceux qui sont à Pôle emploi. Enfin, là, la nouvelle réforme, elle vise à leur donner 450 euros. parce qu'apparemment ils sont trop lourds pour la sécu, mais enfin les grandes multinationales qui sont basées au Luxembourg, combien elles déversent là-bas, et qui, enfin le café de Starbucks à 4,50€ qui vient de je ne sais où, qui au final maltraite, soi-disant équitable, qui maltraite ses paysans, qui nous fait des trucs en carton qui polluent partout, et qui paye pas ses taxes, enfin à un moment donné, là moi je peux pas, ça coince, il y a une espèce de court-circuit dans ma tête, et là je suis plus d'accord. Bing.
Je me réveille avec entrain, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Comment donc êtes-vous entré, puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit, t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je sonne. J'habite au 1 de la rue des douches, y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit, vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit, égrouille-toi, donne-moi du nougat. Égrouille-toi, donne-moi du nougat. C'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je sens ce pas. J'en prie la manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier. Je traverse la ville à pied en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et me dit, arrête-toi, donne-moi du nougat. Assez-toi, donne-moi du nougat. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire, je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit, alors t'as fait quoi? Ben je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter l'Ima. Elle me fait, je viens avec toi. Moi aussi je veux du nougat. 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 Moi aussi je veux du nougat.
À la rencontre de Solène Perron sur Dissonance. Aborigène.
Tu m'avais décrit ce peuple aborigène comme très attachant aussi, mais aussi beaucoup de gens perdus avec l'alcool, avec la misère, avec la pauvreté, avec l'exclusion.
Ouais, c'est un génocide qui est toujours en cours et je sais pas, c'est assez beau et douloureux en fait ce mot-là parce que c'est infâme ce qui s'y passe, c'est ce que j'ai pu voir aussi. C'est pas cool du tout, enfin, le pire de l'homme peut se révéler dans ce genre de situation. Et en même temps, ben, c'est un peuple. Il y a certains endroits, il y a certaines poches qui sont toujours très connectées en fait à l'univers, à la terre, aux saisons. Enfin, là où à Darwin, non, beaucoup de gens définissent la saison, l'année en deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Maintenant, il y a la saison humide qui vient. Mais dans la communauté aborigène, il y a 8 saisons. Il y a la saison des papillons aussi. Il y a la saison des libellules. Et toute cette poésie liée à la nature, enfin la manière d'appréhender les choses, ça a été en fait une, enfin pour moi une entrée aussi dans le yoga, bizarrement, et vers l'Inde après. Et c'est assez indescriptible parce que c'est des, ouais, c'est un peuple attachant et qui te livre ce qu'ils veulent te livrer. Par contre, ils te livreront pas tout et pas n'importe qui. Et du coup, c'est que des bribes. Et moi j'étais assez fascinée, mais il y a un moment donné, soit ben, je lâchais tout, et effectivement j'allais vivre en communauté pour en savoir plus, mais là j'étais à un point de non-retour dans ma culture à moi. soit bah, je traçais ma route et je traçais ma route. Ça a été, c'est bizarre parce que ça s'est fait, il n'y a pas eu de choc culturel à proprement parler, mais ça s'est fait au fur et à mesure des frottements, c'est sur le temps en fait. J'avais d'abord bossé dans un parc national avec un peintre, Old John, qui ne sortait de nulle part à chaque fois, et il me racontait des histoires du Dreamtime. Il voyait un cacatou, et il me racontait l'histoire du cacatou dans le Dreamtime. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais voilà. Et ensuite, on est remonté. Après, j'ai fini dans une communauté où il fallait prendre l'avion pour y aller. Donc là, c'était une communauté assez meurtrie. Et là, je vivais avec des chrétiens. Et je ne les supportais pas, ils me faisaient un peu peur. Et du coup, plutôt que d'être avec eux à écouter leurs prêches à la télé, ben, je m'asseyais sous un arbre dans la communauté avec mon bouquin. Et du coup, ça a dû faire marrer les femmes qui m'ont un peu pris sous leur aile, qui étaient assez sympas, sont venues. Et de là, ben, j'ai pu aller cueillir des fruits sauvages avec elles. Elles m'ont emmené, c'était vice versa, je prenais le camion, j'embarquais tout le monde aussi, on allait à la plage pour pêcher le crabe qu'on mangeait sur la plage avec le feu qu'on faisait. Mais tout ça, c'était à la main, c'était à pied, c'était avec une connaissance de la nature. Elle pouvait me dire le passage des crocodiles dans la mer. Enfin, il y avait plein de choses. C'était assez fascinant. Et bon, peut-être qu'on l'a ici, hein, mais je sais pas. Il y avait un truc en plus. Enfin, il y avait un truc spirituel en plus, avec des danses, avec des chants. Il y avait quelque chose. Enfin, c'était un tout. Et donc de là, je me suis plongée dans le yoga et je me suis dit aussi que ça ressemblait beaucoup à cette culture qui était en train de mourir et qui, du coup, pour ne pas mourir, elle ne pouvait plus évoluer, elle était figée dans le passé, elle résistait comme ça. Et j'ai voulu voir comment, l'hindouisme, comment, en fait, l'Inde et Bali, entre autres, parce qu'ils sont hindous aussi, avaient viré les Blancs et comment ils vivaient aujourd'hui. Parce que c'était ma porte d'espoir. Parce que je vois que là-bas, j'arrive pas à voir... c'est pour ça que je suis partie. Je vois pas une solution positive à ce qui se passe en Australie. Il n'y a pas de happy ending. Tout le monde y perdra des ailes. Des plumes.
Faire son chemin.
Ah, faire ton chemin. Ben ouais, c'est ça. Du coup, j'ai tracé ma route.
Et ça t'a aidé donc les multiples rencontres, l'Australie, etc.
Oui, et puis mes études. Je pense qu'il y a ça aussi. Je ne suis pas partie sans bagage, sans rien. Et c'était un filet de secours, bien sûr, en tant que femme, j'en étais bien consciente. Et en Australie, j'ai fait une licence L3 FLE. Et français, langue étrangère, c'était fait par l'Université de La Réunion. Et du coup, ben, ça m'a toujours amené une grille de lecture de plus en plus pointue des situations et des lieux et de ce qui pouvait se passer. Et donc, en traçant ma route, à chaque fois, j'empilais, je faisais des allers-retours aussi avec des lectures. Et ben, voilà, j'emmagasinais des nouvelles expériences à chaque fois.
Et ta route, elle démarre dans un petit village breton du nord de la Bretagne, c'est ça?
Oui.
On ne sait pas jusqu'où elle te mène, parce que tu es en train de la vivre encore, ta route. Hein. Elle est passée par où depuis... Donc, tu as 36 ans, on peut le dire.
Ouais.
Elle est passée par où avant?
J'ai fait les saisons en France. J'ai fait 2 ans à Rennes. La Roumanie, bien sûr, pendant ces 2 ans, m'a vraiment marquée. Et de là, je suis partie en Australie. Et de là, je suis partie... j'ai visité un petit peu l'Asie du Sud-Est, que je trouvais assez intéressante, pas tout. J'aime pas trop voyager sans rien faire, en fait, ça m'ennuie. Et j'ai fait un petit tour aussi en Nouvelle-Calédonie, où je suis tombée dans des communautés kanak. Parce que quand je travaillais avec les communautés aborigènes, eux, ils ont kiffé, ils sont... Enfin, c'était des gros militants, en fait. C'était très drôle. Et ils étaient à fond, quoi, à libérer le peuple aborigène, eux, ils se libèrent. Enfin, la kanaki, c'est vraiment quelque chose, c'était... Là, ça m'a redonné un élan de vie et d'espoir. C'était génial. Et voilà. Après, c'était Bali, qui m'a pas trop marqué, et l'Inde.
Est-ce que c'est une route droite, facile, aisée, avec que du plat? Ou alors, est-ce qu'il y a des montées, des descentes dures, des endroits où tu vas et puis tu es obligé de revenir parce que tu t'es planté, etc.?
Oui.
C'est une route comme ça?
Ouais, c'est hyper biscornu. Ah ouais, c'est hyper biscornu. Bah après, je pense que ça plairait vraiment pas à tout le monde, mais je supporte pas les peurs et les chaînes. Et si j'ai peur, je ne le supporte pas. Et je pense qu'on nous contrôle par la peur. Et du coup, bah je vais y aller, quoi. Je veux plus avoir peur et partir seule aussi au milieu de nulle part. Ben c'est ça, ça va le faire. Et effectivement, ça le fait. Et c'est toujours cool. Et faut pas avoir peur. Et en tant que femme, faut pas avoir peur. Enfin, toutes ces méconnaissances et médisances pour nous garder à la maison, c'est fini en fait. et je suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, je suis pas plus sportive, j'ai pas fait de sport de combat, je suis juste une personne lambda avec mon sac à dos. Et on peut se reconstruire notre vie n'importe où. On trouve des gens chouettes n'importe où. On peut s'inspirer et inspirer n'importe où. On se nourrit les uns les autres, en fait.
Et puis, il y a le regard des autres qui doit être... de voir quelqu'un comme ça, toute seule, une dame avec son sac à dos, ne pas avoir peur, ça inspire aussi quelque chose. Enfin, je ne sais pas, une espèce de, je sais pas si c'était du respect, mais c'est un étonnement qui fait qu'on porte un autre regard sur toi.
Mais je sais pas, en fait, le regard des autres, ce que ça pourrait être en étant avec quelqu'un, parce que je me barre tout le temps. J'ai du mal à attendre.
Ouais, ouais.
J'aime bien être avec des gens. Mmh. On se dit, on se pose quelque part. Et puis c'est ça, on mange ensemble. On prend le petit-déj ensemble, c'est hyper agréable. Mais après, on fait notre vie.
Ce que je voulais dire, c'est que de te voir arriver toute seule, ça t'a peut-être ouvert des portes.
Ah oui, c'est sûr.
Par le groupe des femmes que tu rencontrais, par...
Puis les hommes en Inde, faut pas se leurrer, ils sont hyper protecteurs, en fait, ils hallucinent. Mmh. Ouais, mais t'es toute seule. Et du coup, mon arrivée en Inde, j'avais juste réservé un hôtel pour passer l'aéroport. Hein. Je ne savais pas où était cet hôtel. Et dans l'avion, j'ai réalisé qu'il allait faire nuit quand j'arrivais. J'avais pas de guide, là, du tout. Et j'en parle au gars à côté de moi qui me dit « Oui, il y a un bus, je te montrerai. » Et finalement, il a été assez malin, il m'a rien dit, il m'a emmené à sa voiture. Et c'était de la pure gentillesse, il savait que j'aurais eu peur. Et là, j'ai vu, il y avait des hommes, et je lui dis « Non, tout ce qu'on dit. » Il me dit « C'est comme tu veux, autrement le bus est là. » Ouais, c'est vrai, je suis fatiguée, ils ont l'air sympas. Bon, en fait, tout ce qu'on dit, pendant 8 heures, on était à côté, il n'a pas eu une remarque, un geste déplacé dans l'avion, bien au contraire. Non, je le laisse me déposer, et c'est des personnes qui m'ont déposé, qui se sont assurées que tout allait bien dans l'auberge, qui ont visité pour moi. Ouais. Voilà. La vie est belle, quoi. Les gens sont sympas.
Création.
La création, ouais, les créations. Ouais, j'ose un peu plus. C'est l'Inde, hein. Ouais, je commençais à le faire là-bas gentiment. C'est les Indiens qui ont commencé à m'acheter mes petites créations. C'était assez rigolo.
Les créations, c'est pour
Du macramé. C'était juste du macramé et en bracelet.
Des bijoux.
Non, là, j'avais pas encore travaillé les pierres. Mais c'était avec des bracelets et eux ont commencé à me l'acheter. Et je me suis dit, ok. Et j'avais connu d'autres personnes dont je ne t'ai pas beaucoup parlé, Sylvie Rossuet, que j'ai rencontrée à Bali et que j'ai revue en Inde par hasard. C'est vraiment là, ils sont rentrés en France aussi. Donc. Enfin, c'est une drôle de rencontre. Et qui, eux, vivaient de ça à Bali. Et ils vont sûrement vivre... Et donc, ça m'a beaucoup inspirée, tout ça. Et je me suis dit, en fait, je savais pas trop quoi faire en revenant en France. Bon, j'étais même plus française au final. J'avais plus de droit à rien. Je me suis un peu renseignée. J'ai monté mon auto-entreprise. Et 3 semaines après être arrivée, j'étais sur les marchés. Et je vendais pas que mes créations, bien sûr. Je revendais aussi les créations d'artisans indiens. Et parce que c'est plus facile quand même de vendre les créations des autres. Ouais, mais du coup, c'est plus facile. Je pense que je peux valoriser tous les... ça demande un peu d'ego et de bagou que de vendre ses propres créations. Donc c'est très flatteur, mais c'est quelque chose. Je suis pas à l'étape de Dom ou Catherine, je crois, qu'on a rencontré hier, qui eux, ils assument totalement leur position et ce qu'ils font. Et... allez. Donc ça, c'est... petit à petit, ça viendra, mais... ce côté créateur qu'on nous bride aussi, qu'on nous enlève en France un petit peu. Je vois les Australiens, ils ont tous leur scrapbook. Et ils font beaucoup, ils se posent beaucoup pour écrire une journée, ou ils la décorent, ou des poèmes. Pareil, la musique, moi, je suis nulle, mais eux, ils vont chanter dans la rue, enfin, très jeunes. Nous, tout ça, on le voit pas. C'est comme si le côté artistique, on était bon à être spectateur. Il y a un petit côté comme ça, avec l'élite, ou alors il fallait être un élu avec une connexion sacrée pour créer. Mais on a sûrement tous notre part de créativité. Et si on créait tous, notre société serait quand même beaucoup plus drôle. On s'imaginerait des vies peut-être beaucoup moins rangées, un peu plus bordéliques. Du moins, je pense que toutes les vies sont bordéliques. Hein. J'y crois pas du tout à ces vies rangées, malgré tout l'acharnement que les gens ont à se donner une façade rangée.
Oui, si on se donne une façade rangée, c'est que peut-être à l'intérieur, c'est le sacré bordel.
Ouais, j'imagine.
Ouais. Et dans la création, il y a aussi tout ce que tu as créé avec ton réseau d'amis indiens autour des tissus. de tes robes, de tes des jupes, de tout ce que tu vends là.
Oui.
Parce qu'il y avait cette dimension là aussi, tu reviens, tu tiens des stands là maintenant pendant la saison estivale.
Oui.
Mais tu participes à une économie indienne en les faisant.
Hein? Bah, il y a ce but là, il y a vraiment, parce que c'est très critiqué à l'heure d'aujourd'hui, oui, aller à l'étranger, l'empreinte carbone, ceci, cela. Les petites mains, mais en manière, enfin, on le voit bien, les gens ont beaucoup de mal à acheter aussi ce qui est fait en France au vrai prix. Donc on voudrait du prix pas cher, et enfin, mais en même temps de la création française, mais ce qui n'est pas forcément possible. Je ne sais plus où je voulais en venir. En Inde...
Si, sur le fait que tu fais participer...
Voilà, là, il y a aussi ce côté de renvoyer l'argent... À un moment donné, de ne pas laisser l'argent bloqué. Pour moi, l'argent, c'est comme de l'énergie, ça doit circuler. Et il y a vraiment... Ça, c'était un de mes mots d'ordre du début. Et petit à petit, j'ai affiné comment je veux qu'il circule. Parce que l'argent, c'est aussi le pouvoir. Il faut qu'on en prenne un peu plus conscience. Donc, du coup, moi, j'ai défini mon projet autour des saris recyclés. Parce que l'Inde, c'est un pays ouf au niveau de la consommation. Ça consomme, ça jette, ça consomme. Et voilà, donc là, il y a tout un travail à faire qui est possible. Et des techniques traditionnelles, en fait. Où là, ça peut pas aller trop vite. Hein. Enfin, puis là, j'en rigolais avec mon collègue indien. On n'y est plus. Enfin, c'est tellement lent, hein, tout ce qui se passe. Mais des mois à arriver que... Ouais, je sais pas, on est peut-être... Parce qu'on parle de fast fashion. Nous, on est solar panel fashion, quoi. Je pense que la slow fashion, ça va bien trop vite pour nous, là. On n'y est pas du tout. Mais c'est ce qui est beau aussi dans la création de toutes ces étapes. C'est cet échange... Il peut pas penser pour moi, je peux pas penser pour lui. On est obligé de pas se comprendre et de faire avec, et petit à petit.
Vous construisez ensemble, lui avec sa culture, toi avec la tienne.
Ouais, il y a personne qui s'efface, en fait. C'est ça que je trouve cool. On arrive à savoir comment le. Mais il va pas non plus penser différemment, parce que pour correspondre au marché, avec moi du moins.
Mmh.
Et donc c'est cool. Moi je m'adapte aussi, je suis vraiment obligée de faire un.
Donc on peut te rencontrer sur les petits marchés des sites touristiques de Bretagne Ouest tous les étés.
Oui, dans le Finistère Nord, surtout Crozon, Morgat, Carantec,
Frascati. Tu vends tes créations et aussi tes robes et les jupes que tu crées avec les tissus imprimés.
Là cette année j'ai du tissu du coup qui me reste. J'ai des tampons aussi avec lesquels les tissus ont été faits, que je trouve chouettes. Juste ça, c'est un côté que j'aimerais bien développer aussi, parce que nous, on peut créer nos propres vêtements à partir de là. Donc voilà, pour le moment, je les vends. Les gens peuvent les utiliser comme ils veulent. Mmh. Et des bijoux aussi que j'achète, c'est les seules femmes avec qui je travaille. Des jeunes qui déboîtent. Elles sont géniales. Elles gèrent le bazar, là. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est à peu près des bols aussi qui sont peints à la main. C'est difficile à expliquer, mais voilà.
Plaguin, c'est un petit quartier de Brest, en fin de compte. On se connaît tous, quoi, tu vois. Je dis bonjour aux anciens, aux jeunes et tout ça. Ici, il n'y a jamais eu de jambon. Un petit peu ému, je veux bien croire. Les bourrines.
Ok. Y a la brume, les éclairs tirent. Y a pas de thunes, mais y a du zèbre. Y'a du béton, y'a des arbres. Si tes piétons c'est d'art, tu veux pas boire, vas-y fais ce qui est. Y'a les schlags qui rentrent de soirée. Les vieilles dames qui partent au marché. J'suis tout peu, y'a de quoi te faire planer. Pour ta cuite d'après, en mode pas cher. Y'a les palmiers, yeah. Y'a les prolos qui tracent au taf. Les meurs chauds qui squattent au caf. Et les bobos qui boivent chez l'autre faf. Y'a qui stick, ça picole chez le fleuriste, nickel. Shot glacé à 2€, big up au trisquel. Y'a les tigers à l'oreille cassée. Y'a les dealers à l'hôtel lacé. Y'a les petits jeunes qui viennent s'enlacer. Y'a ce rêve de révolte que beaucoup rêveraient d'embrasser. Y'a l'avenir, des drapeaux noirs à brandir. Le parc pour les enfants, la terrasse, tu veux pas grandir.
Ouais.
Y'a piquets en fond sonore. Des bums, des troubadours, des rappeuses, un tapon sonore. Y'a la bague qui ne fait que passer. Des gros à cap, des à cercler. Des gens à l'avenir cadenassés qui cherchent la clé des champs en chantant à minuit passé. désolé Marc, fais pas ta victime. Mais t'es pas chez toi, donc y'a des pavés pour ta vitrine. Ici, personne brasse le million. Gaëtan taxe une clope, Rodolphe chante Céline Dion. Y'a des gens qui traversent en coup de vent. D'autres qui pensaient que passer mes sons là depuis un bout de temps. Des jeunes qui dérivent grave, quelques étudiants studieux. Kérin-Grad, c'est le soleil sous un temps pluvieux. Kérin-Grad, mon quartier, ses environs. Kérin-Grad,
là qui fait bon vivre. Sur ces places où toute l'année on tease.
Kérin-Grad,
mon quartier, ses environs.
Kérin-Grad.
Je sais qu'ici, les gens font pas semblant. Ils font pas semblant de pas être sympas quand ils sont pas sympas, mais ils font pas semblant d'être gentils aussi, quoi. C'est sincère.
À la rencontre de Solène Perron sur Dissonance. Confiance.
Pour moi, t'es quelqu'un qui inspire la confiance, qui, dans ses relations aux autres, part d'un a priori toujours favorable. Même s'il y a du mal dans l'autre, tu vas essayer d'aller vers lui pour qu'il se rende compte qu'il y a du mal. Tu m'as raconté qu'une fois, tu étais rentré dans une église intégriste pour aller porter la contradiction au milieu de je ne sais pas combien de gens, auprès d'un évêque en plus.
J'ai pas pu, je suis tellement déçue, mais je retournerai. Oui.
Mais ça, donc tu y vas en confiance, en confiance en toi, en te disant mais c'est là que je dois être, c'est là qu'il faut que j'aille.
Oui.
Et tu te jettes dans la tanière du loup.
Avec le plus grand sourire.
Même pas peur.
Non.
Ça vient d'où ça, de toujours affronter les problèmes directs, quoi.
La peur. Je veux pas avoir peur de l'autre et je veux pas avoir peur de rien du tout. Et du coup, ben voilà, c'est une chapelle intégriste. À tendance FN, donc je te laisse imaginer les charmants mots que j'ai pu entendre là-bas. Ma mâchoire en est tombée, j'étais tellement choquée qu'on puisse dire des choses comme ça en public que, quand même.
Pour une messe en latin.
Ouais, deux fois ils ont parlé en français, deux fois c'était assez odieux ce qui en sortait, et c'était... Waouh, ok, ça existe en France, c'est bien de s'en rappeler aussi.
Ils tenaient des propos contre les migrants, c'est ça?
Contre les musulmans, les arabes. Les arabes étaient forcément musulmans. Puis les musulmans, on les mettait forcément en colère. Et puis l'évêque, eh ben, il a échappé à la mort. Hein, parce que forcément, les arabes qui sont musulmans ont aussi des couteaux dans la poche. Bien ça sûr. Va de soi. Mais bon, il avait sauvé la relation. Lui, il avait été fin, ce mec. Il avait sauvé la relation en donnant le livre de Jeanne d'Arc à la petite fille. Ça, c'était un mec bien. Ouais. Mmh. Donc voilà, moi là j'en suis restée bouche bée, je n'ai plus, j'ai halluciné qu'on puisse tenir des propos aussi odieux devant un auditoire. Mais ouais, j'y vais parce que j'ai quand même confiance en l'autre et je pense que qu'on peut tout dire aux gens, même si on est foncièrement opposés. Et que ben moi aussi, des fois je pense que tout le monde débloque, mais il y a toujours un garde-fou qui passe par là. Et le problème là, c'est que... ces cultes-là, il n'y a pas de garde-fous, ils sont en roue libre complet, ils amassent de plus en plus de monde, et on n'en parle pas.
Comment tu fais le lien entre peur et confiance? C'est parce que tu as peur que tu as confiance en ce que tu fais?
Ouais, je me refuse d'avoir peur, et j'ai confiance en l'autre. Et je pense que si tu vas avec un cœur, un bon cœur, en fait, eh ben, je sais pas, en fait.
En fait, tu as peur, mais tu essaies de surmonter cette peur.
Ouais. En fait, je sais pas, c'est quelque chose qui me questionne toujours, ça. Mais je sais que je supporte pas avoir peur, c'est sûr. Et je supporte pas non plus être définie. Et être... ça, c'est un truc on me définit pas. Parce que définir quelqu'un, c'est le mettre dans une case et c'est l'enfermer. Et ça l'empêche d'être et d'explorer. Et on n'a qu'une vie, en fait. On peut pas passer à être dans un truc où on n'est pas sûr. Mmh. Et moi, je suis en constante expérience. Partout, que ça soit... dans les petits domaines maintenant que je découvre, artistique, que ça soit au niveau social, que... enfin partout en fait.
Être dans une case, c'est s'arrêter au bord du chemin et rentrer dans sa petite maison et ne plus bouger. Toi, tu es toujours en mouvement, quoi.
Oui.
Et être en mouvement, c'est ça peut être... t'es pas figé dans le temps, quoi. Ça peut être changer d'idée, ça peut être évoluer, ça peut être...
Oui, et puis c'est ça en fait.
Avec comme maître mot, Solène, la haine de l'injustice quand même, qui fait que ça te fera pas bouger, quoi.
Non, ça, je peux pas. Ouais, j'en démords pas. Les injustices, c'est quelque chose... Mais je pense que c'est être femme aussi, parce qu'on en subit constamment des injustices. Et ça, je l'ai pointé récemment, je voyais pas trop. Mais effectivement, je trouve pas juste, en fait, que notre condition ne soit pas plus... Et c'est sans forcément être féministe. Hein. Enfin, après, je me définis... J'ai pas envie de me définir là-dedans. Et du coup, d'être ralliée à des mouvements, ça me gonfle. Non, c'est au quotidien. C'est faut faire pointer ces injustices et dans le travail et là où on est. C'est un combat personnel permanent. Mais je pense que si chaque femme s'en empare, les choses bougeront. On est légitime, en fait, à s'en emparer. On fait le double de beaucoup d'hommes en... Enfin, moi, pour le coup, pour le moment, je fais le choix de pas forcément avoir d'enfants parce que je trouve ça... Enfin, je vois pas, en fait, toute cette idée de... Alors, OK, il faut avoir un bon boulot, il faut être mère, il faut savoir satisfaire le mari, il faut avoir les copines. Il faut être tout à la fois, mais être rémunéré moins aux yeux de la société et être considéré comme moins aux yeux de la société. Mais on fait bien plus. Et ça, je trouve pas ça juste.
Alors que ce soit pour le féminisme ou pour le reste, tu attends pas après une organisation, tu fais. Et tu dis aux gens de faire, quoi.
Ouais. T'es pas content, tu fais. Moi, je suis pas contente, je dis, je fais. T'as qu'à faire pareil. Les choses bougeront peut-être. Et ça, c'est depuis... Enfin, moi, c'est des mots d'ordre-là depuis le lycée, en fait. Et j'ai pas attendu que le féminisme devienne une mode aujourd'hui. Enfin, voilà. C'était comme ça. C'était juste... C'était injuste. Et ça, ben, j'aime pas. Je peux pas. Voilà.
Tolérance.
Faut être tolérant, quoi. Faut être ouvert. Faut laisser les gens vivre leur vie... Tant qu'il nous faut, c'est ça, tant que leur liberté s'arrête là où commence la mienne et vice-versa. Et à partir de là, tout roule. Hein. Et c'est un peu ce que tu décris, là. Moi, j'aime beaucoup dans la classe de l'écolo-graine, là, ce que tu décrivais, la bulle. Chacun sa bulle, en fait. Et tu rentres pas dans ma bulle, et qu'elle soit physique ou mentale, il n'y a pas le droit. Il faut respecter la bulle de l'autre. Et je trouve que c'est une super belle base de vie... dans la société. Si tout le monde pouvait avoir conscience de ça, eh ben, franchement, on irait, on soufflerait.
Comment, Solène, tu penses qu'on peut faire du collectif avec tout un tas de petites bulles qui sont toutes individuelles? Est-ce que ça peut créer un mouvement collectif? Est-ce que, par exemple, de tout temps dans l'histoire, on te dit oui, il faut organiser, ou il y a des mouvements qui ont dit il faut organiser la lutte. Toi, non, c'est que chacun fasse son truc et ça sera collectif dans la mesure où tout le monde ira mais sans un leader.
Et ça, j'en discute beaucoup avec une de mes voisines où on est pareil. En fait, je me permets de dire ça au niveau du collectif. Ceci dit, je veux pas dénigrer non plus, enfin parce que je l'ai un peu fait avec les leaders et tout ça que j'aime pas, mais je veux pas le dénigrer parce que mine de rien, ils ont quand même un poids. Et pour certaines personnes, c'est fédérateur et sans ça, ils se bougeraient pas. Donc on peut pas non plus cracher dans la soupe là-dessus. C'est pas parce que moi je m'y reconnais pas que ça doit pas exister. Mais moi, par contre. Ce genre de mouvement, je sens l'oppression. Enfin, je travaille par exemple dans un lycée où je ne suis pas syndiquée. Je ne veux pas être ralliée à aucun syndicat. Mes problèmes, mais peut-être parce que voilà, j'ai la force. Mes expériences aussi font que j'ai la force d'aller voir n'importe qui pour dire bah là, je suis pas d'accord. Donc j'ai pas besoin de passer par un syndicat. Et je sens que ça peut être pesant pour les. Enfin, pas pesant, mais ça questionne sur ma position parce que je peux avoir un discours assez radical peut-être pour certains, mais du coup pour eux, bah je devrais être au syndicat. Mais moi, j'ai pas envie. Mais voilà, du coup, les deux sont nécessaires et les syndicats devraient comprendre, foutre la paix à des gens comme nous, qui faisons aussi bouger les lignes. C'est pas parce qu'on fait pas partie de l'organisation qu'on ne soutient pas tout ce qu'ils font, ou certaines lignes, mais on fait aussi avancer les lignes à notre niveau, nous qui ne participons pas à ces grands mouvements. Le tout doit exister, enfin, tout doit exister, en fait.
C'est la tolérance.
Ouais, c'est ça.
Musique arabo-andalouse.
Alors, j'ai découvert la musique... Bon, alors, je suis pas du tout une bonne musicienne, mais j'adorais écouter de la musique. Et en Inde, j'aime beaucoup... Il y a des sons qui sont assez... qui font vibrer. Et donc, il y a 2-3 ans, j'ai acheté un enregistreur. Et donc, j'ai enregistré des sons. J'ai été captée, donc à la base, c'était les mantras. Et puis, je sais pas pourquoi, cette année-là, donc, j'avais acheté une flûte. Donc, j'ai fini sur un toit de musiciens, où le soir, c'était le Gypsy Café, et on se retrouve...
C'était en Inde.
Oui, ça, c'était en Inde. Et du coup, il jouait de la gratte, et ça m'a vraiment fait penser à de la musique andalouse. Il y avait un truc, et ça se balançait, ça communiquait en chantant et en jouant de la musique. Ça, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Et de là, après, je suis partie en Espagne, à Malaga, et donc je voulais enregistrer aussi les gitans d'Espagne, mais bon, que j'ai pas vu. Puis voilà, c'est ce dont on parlait, on peut, enfin, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment, et c'est pas le bon moment. On peut pas prévoir ça. Et en Inde, je l'avais pas prévu du tout. Donc, et je crois que c'est la musique, en fait, elle traverse, elle est transversale, elle traverse les peuples, elle fait vibrer les peuples. Et moi, elle me fait vibrer clairement, j'adore. Elle est parlante. Enfin, je ne sais pas trop comment...
Donc, les Gitans sont partis de ce côté-là, de l'Asie,
oui.
Pour arriver en Espagne, passer après en Afrique du Nord. C'est une musique, effectivement, quasiment universelle.
Et c'est drôle, parce qu'ils existent toujours, ces peuples-là. Ça reste des minorités persécutées, mine de rien, que ça soit d'un bout à l'autre. Mais ils existent toujours. Et dans le Rajasthan, il y a des familles qui perdurent tout le temps. Et ça, c'est... Enfin, j'ai commencé à me documenter. J'irais bien, oui, dans le désert pour les rencontrer et enregistrer de la musique. Enfin, il y a des choses, des gens qui sont musiciens et chanteurs parce que c'est le système des castes, et de famille en famille, donc ils sont bercés là-dedans. Et, oui, c'est assez, assez beau. Et les Gitans, alors après, ici, du coup, je travaille avec eux sur les marchés, ce qui est assez rigolo. J'en ai un petit peu parlé avec eux, mais c'est pareil, c'est un cercle fermé. Et si ça se fait un jour, c'est cool, si ça se fait pas, c'est pas grave. Hein. Mais des fois, c'est vrai que je les branche un peu musique.
La rencontre de Solène Perron sur Dissonance. Frontières.
Ah bah les frontières. Ouais, je suis pas du tout d'accord avec les frontières et le repli sur soi. Je me suis construite avec plein d'autres cultures, j'ai vécu avec des Taïwanais, j'ai appris l'anglais avec des Allemands, des Italiens, des Japonais. Enfin voilà, c'est aussi des manières de jouer avec la langue qui sont différentes et c'est hyper riche. Et faut pas avoir peur. Enfin, le mot mondialisation, il est complètement... il est lourd, il est fourni, il est chargé de plein d'idées. Mais je crois qu'on perdra pas notre identité. Enfin, faut pas rester figé dans son identité. Toutes les cultures ont évolué. Faut juste arrêter ce délire de oui, mais faut se préserver. Alors c'est vrai qu'on, nous en Bretagne, on a été abîmés par la France, par la manière dont ils nous ont attaqués. C'est important. Mais notre culture, faut qu'elle reste vivante. Et une culture, pour qu'elle reste vivante, elle évolue et elle évolue avec aussi tous ces mélanges humains. Et moi, je trouve ça riche en fait d'aller ailleurs. Enfin, d'avoir d'autres points de vue, d'expérimenter d'autres points de vue, d'autres manières de faire, et de brasser ça, quoi. Faut vraiment le brasser. Après, ça, c'est vrai que ça va trop vite. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on consomme beaucoup. Enfin, voilà, on va une semaine à Bangkok, on va une semaine je ne sais où. Bon, moi, je sais pas, j'ai du mal avec ça. Je suis trop lente. Je prends du temps, quoi. Si je vais une semaine, je serais trop frustrée. J'aime autant rester à la plage ici. Mais oui, je crois qu'il faut juste dématérialiser au possible les frontières. Et puis si on a peur de l'invasion de l'autre, ben, qu'on se regarde dans un miroir et qu'on voit en fait pourquoi les autres partent de chez eux. C'est pas des gens qui veulent partir. Ils resteraient. Et si on était clair avec nous-mêmes, nous, l'Occident, la vieille Europe, le vieux continent, je pense qu'on pourrait abolir les frontières. Et on ne le fait pas parce qu'on n'est pas clair. On continue à vendre des armes, on continue à vendre la guerre, à faire tout un commerce, à rester riche en gardant l'autre pauvre, et à refuser et à blâmer tous ces migrants qui échappent à la misère à cause de nous. Incohérence.
Oser.
Ouais, faut oser dans la vie.
Ah oui, tu oses, hein. Partir comme ça, à l'aventure, toute seule, sac à dos, oser rentrer dans une église de fachos.
Ouais, je crois que tout est possible. On oublie, faut juste oublier là tout ce qu'on a. Justement, avec l'éducation nationale, depuis le plus jeune âge, on nous bride, faut pas faire ci, faut pas faire ça, on est cantonné, les trucs. Non, faut oser, faut y aller, faut complètement expérimenter des nouveaux styles vestimentaires. Enfin, là, en plus, je suis en train de découvrir tout ce qui est les transgenres et les identités. Enfin, que, ben, il n'y a pas homme, garçon, que, en fait, effectivement, il y a toute une lignée. Mais moi, je me serais emparée de ça si j'avais été ado. C'est génial, j'aurais voulu être un mec, me raser la tête, et puis, ben, aujourd'hui, je suis un mec. Peut-être pas où je serais pris plus de temps, mais là, les jeunes, il faut qu'ils osent, en fait, qu'ils s'emparent de cette liberté qui va remuer la société.
Et qui la fera évoluer, oui.
C'est sûr. Et on est toujours dirigé, enfin, ici, du moins en France, par l'Église, hein, qui est omniprésente, et c'est elle qui nous a mis cette binarité. Et tout ça, ça va remuer par ces nouvelles découvertes scientifiques, qui ne sont pas des découvertes, parce que dans d'autres pays, c'est déjà de fait. Mais du coup, ici, ça y est, ça nous est accessible. Et ouais, je crois que dans la vie, il faut oser. Il faut se marrer.
Merci beaucoup à Solène. Vous pouvez retrouver des infos sur Solène en allant sur son blog, dont l'adresse est donnée sur la page internet de Dissonance. Cette émission est à écouter mardi 26 octobre à 18h, mercredi 27 octobre à 8h et samedi 30 octobre à 16h sur Radio Sainte-Afrique. Vous pouvez aussi bien entendu la télécharger à votre guise sur le site dissonance.ovh ainsi que sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance.
Salut
et fraternité.
Gather round people, I'll tell you a story, an 8-year-long story of power and pride. British Lord Vesty and Vincent Lingyari were opposite men on opposite sides. Vesty was fat with money and muscle, beef was his business, broad was his door. Vincent was lean and spoke very little. He had no bank balance, hard dirt was his floor. From little things, big things grow. From little things, big things grow. The Rinji were working for nothing but rations. But once they had gathered the wealth of the land, daily the pressure got tighter and tighter. The Rinji decided they must make a stand. They picked up their swags and started off walking. At Wadi Creek, they sat themselves down. Now it don't sound like much, but it sure got tongues talking. Back at the homestead, and then in the town. From little things, big things grow. From little things, big things grow. A vesting man said, I'll double your wages, 18 quid a week you'll have in your hand. Vincent said, we're not talking about wages, we're sitting right here till we get our land. Vesty man roared, Vesty man thundered, you don't stand a chance of a cinder and snow.
been said if we fall, others are rising from little things. Big things grow from little things. Big things grow. Then Vincent Lingyari boarded an airplane, landed in Sydney, big city of lights. And daily he went round softly speaking his story to all kinds of men from all walks of life. And Vincent sat down with big politicians. This affair, they told him, it's a matter of state. Let us sort it out. Why, your people are hungry. Vincent said, no thanks, we know how to wait. From little things, big things grow. From little things, big things grow. Then Vincent Lingyari returned in an airplane back to his country once more to sit down. And he told his people, let the stars keep on turning. We have friends in the south, in the cities and towns. Eight years went by, eight long years of waiting, till one day a tall stranger appeared in the land. And he came with lawyers, and he came with great ceremony, and through Vincent's fingers poured a handful of sand. From little things, big things grow. From little things, big things grow. Well, that was the story of Vincent Lingyari. But this is the story of something much more. How power and privilege can unmove a people who know where they stand. Stand in the law. From little things, big things grow. 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 From little things, big things grow.